Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Gaëtan Gorce, qui a été député, sénateur, donc ancien parlementaire, et qui a présidé la mission d'information sur la gouvernance mondiale d'Internet. Gaëtan Gorce, bonjour.
Bonjour.
Internet, tout le monde s'en sert, et on est presque étonné d'apprendre qu'il y a une gouvernance mondiale de cet outil qui semble appartenir à tout le monde.
Bah, il faut bien qu'il y en ait une, puisque pour le coup, Internet s'est développé d'abord dans des cercles professionnels et surtout universitaires, mais après une telle dimension, couvre aujourd'hui l'ensemble de la planète. Facebook, c'est plus de 2 milliards, enfin c'était peut-être un peu moins aujourd'hui, je ne sais pas, mais 2 milliards d'abonnés sont des réseaux considérables, et il est normal que la question se pose, puisque le numérique aujourd'hui a des incidences sur la vie privée, on en parle souvent, sur la vie économique, mais aussi sur la vie politique, et même sur la sécurité des États. Il peut même être utilisé comme outil d'influence, de puissance, de guerre, de criminalité. Donc tous ces sujets se croisent et appellent évidemment une réflexion sur sa gouvernance.
Alors peut-être pouvez-vous rappeler la création, la genèse de cet outil qui, une fois encore, pour les nouvelles générations, apparaît évident et qui, pour les plus anciennes, sont apparues il y a peu de temps.
Bah, Internet, c'est d'abord un souhait politique et militaire. Ce sont des scientifiques liés au ministère de la Défense des États-Unis qui s'interrogent, avec l'apparition de l'arme nucléaire, sur la possibilité de protéger les réseaux d'information indispensables à la sécurité des États-Unis. Donc il faut éviter qu'il y ait un centre sur lequel on puisse frapper, et donc on réfléchit à des techniques en réseau. Puis ensuite, c'est le relais pris tout naturellement par les universitaires qui vont s'impliquer sur ces sujets et offrir des solutions qui vont rapidement prendre leur autonomie dans le champ académique, c'est-à-dire qu'elles vont quitter le domaine militaire, même si c'est à partir du ministère de la Défense et du Pentagone que les financements ont été trouvés, pour permettre aux universitaires, et c'est eux qui vont prendre la main dans les années 60 sur le sujet, de partager la connaissance. Au fond, c'est une utopie, Internet, qui s'impose
une
petit à petit.
Une utopie créée par le Pentagone, c'est un peu paradoxal.
Internet n'est qu'un paradoxe, c'est un instrument de puissance et un outil de liberté et d'émancipation. Internet n'est que ce paradoxe qui rend évidemment toujours difficile, et sa compréhension et sa régulation. Donc, ces universitaires sont nourris de l'esprit dont on parle beaucoup aujourd'hui de mai 68. Dans leur idée, c'est justement rien ne doit empêcher la circulation des connaissances, leur mise en réseau et Internet, puisque c'est un système qui fonctionne sans qu'il y ait de centre et dans lequel à chaque bout on peut modifier l'information qui est transmise et on ne peut pas la modifier dans l'intervalle. Donc il y a une liberté d'initiative considérable qui est laissée à l'ensemble des utilisateurs. Internet a apparaît d'abord comme l'outil de cet esprit presque libertaire, qui va d'ailleurs dominer Internet jusque dans les années 90, avec notamment la volonté de bannir, et ça paraît aujourd'hui assez curieux, toute forme d'exploitation commerciale ou publicitaire d'Internet. Il y a des polémiques importantes aux États-Unis à la fin des années 80, début des années 90, lorsque un éditeur lance une publicité par Internet pour un livre, ou lorsque un cabinet d'avocats lance une première offre commerciale par Internet. À partir du moment, évidemment, le réseau s'est développé. Tout ça est considéré à l'époque. Ça paraît à des années-lumière, et pourtant c'était hier, apparaît à l'époque comme un scandale. Évidemment, tout ça va changer très vite, et le développement de la micro-informatique, la mise en réseau, tout ça va contribuer évidemment à un usage qui va devenir de plus en plus personnel et commercial.
Pouvez-vous décrire cette première étape où le Pentagone, effectivement, se dit en cas de guerre nucléaire, il faut rester connecté, et donc éviter quelque chose de trop centralisé, donc d'où l'Internet, et à partir de quand les laboratoires universitaires reprennent les choses en main et s'autonomise. À partir de quand s'est fait cette disjonction entre un projet militaire et un projet peut-être pas libertaire, mais en tout cas qui apparaît comme tel pour beaucoup?
Dans les années 60 et à partir de la fin des années 60, évidemment, le réseau ne peut se développer que par la contribution des scientifiques, et très vite, il s'émancipe de la tutelle du système du Pentagone, qui évidemment garde le contrôle de son propre système, ce qu'on appelle ARPANET. On garde évidemment le contrôle, mais les universitaires se mettent très vite, et notamment parce que la recherche avance rapidement, parce que les innovations sont partagées très rapidement. L'Europe, d'ailleurs, va contribuer à cette évolution. On croit toujours que c'est une invention américaine. L'Europe, à travers le CERN, le Centre d'études et de recherche de Genève, va jouer un rôle considérable, et Tim Berners-Lee est un Britannique, Louis Pouzin est un Français, ils vont contribuer à faciliter la circulation de l'information, parce que la grande difficulté, c'est de standardiser l'information qui circule entre des réseaux et des équipements qui ne sont pas de même nature. Il faut donc inventer des systèmes de codage et des langages, et pour le coup, le CERN va jouer un rôle très important dans ce domaine, qui sera réutilisé par les Américains, alors que la France, elle, va l'oublier. On est dans... C'est le plan calcul à l'époque qui permet à Louis Pouzin de financer ses études. Il essaye de convaincre...
Le plan calcul qui avait été lancé par De Gaulle pour concurrencer l'industrie informatique américaine.
Absolument. Et les résultats obtenus dans le cadre de ce plan calcul et les collaborations avec le CERN par les Européens sont ignorés par les dirigeants administratifs et politiques français. Le programme est plus ou moins abandonné à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, et on investit sur d'autres priorités au niveau des télécoms, laissant aux États-Unis, et notamment un sénateur américain qui va très vite s'emparer de ce sujet, laissant aux États-Unis le soin de développer, d'utiliser le potentiel formidable que représente Internet. Al Gore, notamment dans les années 80 et 90, comme sénateur, va jouer un rôle considérable, à la fois pour développer une culture du numérique, pour faire évoluer le droit américain au bénéfice du numérique et pour dégager des moyens d'investissement et des avantages fiscaux qui permettront au numérique de se développer très vite aux États-Unis.
Alors, c'est quoi la gouvernance d'Internet? Comment pourriez-vous la qualifier et comment est-elle organisée?
Alors, on pourrait dire que c'est un grand bazar.
Parce que quand chacun utilise Internet, on n'a pas l'impression de s'adresser à une autorité. Donc, comment cela se passe-t-il concrètement?
Il faut, on l'a compris, il faut évidemment des normes techniques qui soient partagées, des standards communs qui permettent à des équipements de nature différente, à des informations de nature différente de circuler et de pouvoir être lues les unes par les autres. Cela ne peut pas se faire évidemment par la simple volonté exprimée dans l'absolu. Donc il y a une gestion technique et technologique d'Internet qui est assurée pour l'essentiel par la communauté scientifique. Ce qui frappe, ce qui est la caractéristique de la gouvernance d'Internet, c'est qu'elle ne repose pas sur une institution. Elle n'a pas été établie par des règles internationales, comme on l'a fait par exemple avec le développement du télégraphe ou de la radiocommunication, qui a été rapidement...
Oui, parce qu'il y a la première organisation internationale, parmi les premières organisations internationales créées, il y a l'Organisation internationale de la Poste, de télégraphe, donc les inventions techniques ont débouché sur la création d'organisations internationales.
Des conventions internationales pour effectivement disposer de normes communes entre différents États pour que l'information puisse circuler, et puis des institutions qui les ont gérées, conventions et institutions placées sous l'autorité de la communauté internationale, supposant un consensus. Internet, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour l'essentiel les professionnels eux-mêmes cooptés, scientifiques, utilisateurs, innovateurs, qui se sont mis d'accord entre eux pour, par consensus, par itération, élaborer, faire évoluer les normes. Autrement dit, la plupart des structures qui aujourd'hui assurent la gestion technologique, l'évolution des normes standards, sont des structures qui sont presque informelles. Elles existent et elles sont organisées par les professionnels eux-mêmes. Elles n'ont généralement pas de personnalité morale. Les financements viennent de l'extérieur par des structures qui ont été mises en place par professionnels qui, eux, ont su développer leur situation dans ce domaine, qui savent trouver des financements. C'est-à-dire, souvent, ce qui pose problème, c'est que les financements viennent des GAFA eux-mêmes, mais pas toujours. Enfin, c'est par là que ça passe. Mais la communauté scientifique et des techniciens a réussi à garder son autonomie, et les normes, par exemple, les standards, sont fixés par la communauté des ingénieurs et techniciens qui échangent par Internet pour se mettre d'accord sur l'évolution de ces standards. Sur des questions plus, j'irais pas plus complexes, parce que ces questions des normes évidemment sont essentielles, mais on imagine bien que le développement d'Internet va poser un deuxième problème qui est celui de l'adressage. Il faut effectivement mettre en place une sorte de numéro à partir desquels on peut d'adresse IP, à partir desquels on va pouvoir écrire aux uns et aux autres. Il faut donc dresser une sorte d'annuaire. Et cet annuaire est mis en place aussi par une structure. D'abord, c'était l'Université de Californie qui a géré ça pendant longtemps. Et puis, on s'est dit quand même que c'était un peu ennuyeux que ce soit géré uniquement par une université. Donc, on a créé une association de droit californien, qui s'appelle l'ICANN, et qui gère les noms d'adresse, c'est-à-dire c'est elle qui attribue les adresses Internet et qui les gère. Alors c'est une association qui s'est constituée par cooptation en mobilisant des professionnels, des chefs d'entreprise, des usagers qui se cooptent dans les instances de l'ICANN et qui s'est vu reconnaître de facto, sans qu'à aucun moment un accord international ne l'ait sanctionné, qui s'est vu reconnaître de facto ce pouvoir, c'est un véritable pouvoir, cette responsabilité, c'est devenu un pouvoir d'attribuer les noms d'adresse et les noms de domaine, les DMS, ce qu'on appelle, ce qui est évidemment devenu un enjeu commercial, parce que ça coûte très cher aujourd'hui d'acheter, il y a un droit, ils sont loués, les DMS ne sont pas vendus, mais enfin il y a un droit d'accès qui est en général de plus de 100 000 $, et il y a une location annuelle qui est généralement de 25 000 $. Par exemple, pour avoir un nom de domaine comme, je ne sais pas, .20, ou .France, .Paris, il faut payer à l'ICANN et à ces différents registres qui sont répartis sur l'ensemble de la planète, il faut payer ce droit d'accès et cette location. Alors ça pose différents problèmes, ça pose des problèmes commerciaux, parce qu'on voit bien que l'ICANN lance des appels d'offres et des des ventes aux enchères sur des noms de domaines qui ne sont donc pas protégés. On a eu tout un débat qui n'est pas complètement tranché sur les appellations contrôlées, notamment dans le domaine du vin, par exemple, où l'ICANN entend bien vendre l'appellation .bourgogne et vin de Bourgogne à qui veut l'acheter à des prix dépassant les capacités d'autres, indépendamment de savoir si ces gens-là sont producteurs et ont une quelconque propriété sur le nom de domaine. Des enjeux politiques. Quand l'ICANN a créé un point Catalogne, point CAT, c'était un problème politique en 2006. Ça a été réglé dans d'autres contextes que politiques. Lorsque les États-Unis sont entrés en guerre avec l'Irak, la première fois, les États-Unis ont fait suspendre les noms de domaine commençant par, correspondant à l'Irak. Donc on voit bien que même si cette communauté scientifique et professionnelle se veut autonome et indépendante, elle est quand même soumise à des influences. Et l'enjeu, c'est de les faire échapper à ces influences.
Alors, revenons peut-être au tout début. Pourquoi, justement, dans d'autres domaines de révolution scientifique, on a créé des organisations internationales avec des règles concrètes, et donc chaque pays peut adhérer, etc. Pourquoi Internet a échappé au syndrome de l'organisation internationale qui, apparemment, est plus protecteur du droit de chaque État?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'initiative d'Internet, c'est une initiative qui n'est pas venue ni des États, ni des institutions de recherche, mais c'est fait presque, j'allais dire, spontanément et par des initiatives partagées entre différents professionnels qui ont tenté de préserver, d'organiser leur autonomie. C'est donc l'esprit même d'Internet qui s'oppose à cette idée qu'il puisse y avoir une régulation faite par les États, une régulation juridique internationale. La deuxième raison, c'est que l'Internet tel qu'il fonctionne, qui repose par conséquent sur un réseau très vaste, s'oppose aussi dans sa nature, pas seulement dans son esprit, assez spontanément à ce type de régulation et à ce type de contrôle, puisque c'est un développement qui peut se faire de manière extrêmement vive et qui laisse à chaque utilisateur en bout de chaîne des capacités d'initiative, d'innovation, ce qui rend difficile évidemment un encadrement strict. Et puis il y a une troisième raison, alors là qui est plus contemporaine, parce que les efforts de réglementation internationale ont commencé à émerger à partir des années 2000. L'Organisation des Nations Unies a lancé des sommets sur la société de l'information, qui étaient surtout des lieux d'échange et forums, qui ont débouché sur les forums numériques mondiaux, donc un espace de débat, mais qui n'ont jamais pu déboucher sur des accords internationaux malgré certaines tentatives, et sauf dans certains domaines, la lutte contre la cybercriminalité, certains accords en matière fiscale, mais qui sont très limités, donc qui restent toujours... Et puis la protection des données sur lequel je reviendrai, sur lequel il y a quelques avancées, mais essentiellement à l'échelle européenne. En dehors de ces quelques exemples, on n'a pas réussi à trouver d'accord international pour une raison simple, c'est que les Américains qui avaient le contrôle, au fond, indirect du système, puisque l'ICANN notamment était une société de droit californien et l'essentiel des grandes entreprises numériques sont des entreprises américaines, n'a pas envie de voir la Russie ou la Chine exercer un contrôle sur Internet par le biais des organisations internationales. L'Union internationale des communications a cherché à plusieurs reprises s'emparer du sujet, mais s'est heurtée à l'opposition. Il y a eu un échec à Dubaï, notamment lors d'un congrès de cet organisme international en 2012, mais y compris l'Europe a appuyé les États-Unis dans son refus d'une réglementation internationale, craignant une mainmise de gouvernements autoritaires sur le dispositif. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas déboucher aujourd'hui sur des règles internationales communes et partagées autrement que de manière assez spontanée et empirique, ou alors dans des domaines très limités, c'est justement, il y a aujourd'hui cet affrontement. Internet est devenu, de cet espace de liberté dont j'ai parlé à nouveau, un enjeu de puissance, cet affrontement entre puissances sur le contrôle d'Internet, et que les États-Unis, comme de manière générale la communauté internationale et les pays européens, n'ont pas intérêt à ce que, y compris l'intérêt démocratique, politique, n'ont pas intérêt à ce que, brusquement, des États plus autoritaires mettent la main sur ces dispositifs et imposent des réglementations qui iraient d'ailleurs à l'encontre de l'esprit d'Internet. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est un système qui est résilient, ce système qu'on appelle multipartenaire, que j'ai décrit tout à l'heure, cette gouvernance par cooptation, par consensus, s'appuyant sur le professionnalisme de différents acteurs. Il a l'inconvénient, comme je l'indiquais aussi, de manquer de transparence, et donc de permettre une influence américaine, juridique ou politique, on l'a vu sur la question
de renseignement. Oui, parce que comment sont choisis ceux qui choisissent?
Ils se choisissent entre eux, ce qui est une vraie difficulté.
Et est-ce que les noms sont connus ou est-ce que la liste
est...
Oui,
bien sûr.
Il y a la transparence sur la composition. Et dans ce cas, quelle est la proportion d'Américains qui figurent dans ce corps? De combien de personnes est-il constitué?
Elle est considérable, évidemment, puisque comme je l'indiquais, c'était essentiellement des professionnels. Ils sont souvent à l'origine de dispositifs, mais les Européens y tiennent aujourd'hui une place. Et par exemple, le nouveau président de l'ICANN est aujourd'hui un Suédois. Ça a toujours été un Américain. Aujourd'hui, c'est un Suédois. Alors, c'est pas parce qu'il est Suédois suédois qui sera plus attentif aux enjeux soulevés par l'Europe. Les États d'ailleurs tiennent un rôle, une place assez limitée dans l'ICAN. Mais enfin, on voit que les Américains ont compris qu'il fallait lâcher du lest, et Obama, après notamment l'affaire Snowden, a lui-même amorcé cette évolution. La société l'ICAN, qui est donc celui des droits privés, une société de droits privés qui relève de droit californien, n'est plus soumise au contrôle direct alors qu'elle en était autrefois dépendante du département du commerce américain. Les États-Unis ont commencé à lâcher un peu de lest, même si évidemment ils restent les plus influents dans le fonctionnement de ces structures.
Y compris donc, comme vous l'avez indiqué, qu'en cas de conflit, ils peuvent supprimer la référence à un pays, le domaine d'un pays.
Ils l'ont montré. Est-ce qu'ils pourraient le refaire aujourd'hui? En tout cas, ils ont été capables de le faire il y a une quinzaine d'années.
Vous pensez que le rapport de force s'est transformé, qu'il serait plus difficile de le faire aujourd'hui?
Disons que l'affaire Snowden et les révélations sur les interceptions qui ont été faites de manière irrégulière par les services de renseignement américains avaient un peu changé le rapport de force. L'émergence de la question terroriste est en train de faire rebasculer les choses dans un autre sens, parce que les enjeux de sécurité deviennent tels qu'on fait passer un peu à l'arrière-plan les enjeux de protection des données, de protection des individus que portent plutôt les Européens. Mais en tout cas, il y a une évolution de l'état d'esprit qui est indiscutable, et les Américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas espérer aujourd'hui garder ou faire perdurer un système que j'ai qualifié de multi-acteurs, tel que je l'ai décrit, qui est un système assez empirique, dans lequel exerce une influence manifeste, si ils ne lâchaient pas un peu de lest, ce qu'ils ont commencé à faire. Mais évidemment, la bataille entre guillemets continue, parce que les instances dont j'ai parlé, il conviendrait d'abord donc d'avoir un peu plus de transparence sur leur fonctionnement. Ça s'améliore, mais c'est encore loin d'être satisfaisant sur les conditions de désignation. Transparence sur leur mission exacte. Quelle est la place laissée aux États dans ces dispositifs, qui doivent quand même pouvoir intervenir, donner leur avis dans le débat sur l'attribution des noms de domaine, par exemple, sur les appellations pour les vins dans lesquels la France était impliquée. Elle avait beaucoup de mal, la France, à faire valoir son point de vue, puisque au sein de l'ICAN, les États ne seront représentés que dans un comité consultatif, qui pèse donc ce que pèse chaque État et ce que peut peser un comité consultatif par rapport à une instance de décision qui est indépendante de ce comité. Donc, on voit bien que la situation est difficile, mais elle évolue. Et je crois qu'il faut, de ce point de vue, être assez empirique sur la manière d'aborder les choses, continuer à exercer la pression pour que plus de transparence puisse se faire, pour que les missions soient mieux définies, et peut-être aussi pour que les règles internationales progressent domaine par domaine, puisqu'on n'arrivera pas à une grande charte internationale de la régulation d'Internet, qui serait évidemment souhaitable, dans lequel les principes soient énoncés. Ces principes, on les connaît, ils ne sont pas toujours respectés. C'est le principe de neutralité, c'est le principe multi-acteurs, c'est le principe de protection des données, c'est le principe d'ouverture et d'interopérabilité, qui tous connaissent des aménagements, des exceptions. Ils sont plus ou moins respectés, évidemment, il serait préférable que ces principes soient inscrits dans une charte internationale. Je pense qu'il ne faut pas espérer en arriver là, il faut plutôt essayer de progresser domaine par domaine, là où c'est possible. Par exemple, comme je l'ai évoqué, la protection des données, sur lequel l'Union européenne a aujourd'hui un avantage, puisqu'elle est celle qui s'est dotée de l'outil juridique le plus complet, le plus précis, le plus protecteur.
Et cela veut dire que les Russes et les Chinois sont exclus de cette gouvernance ?
Alors, les Russes et les Chinois ne sont pas exclus de cette gouvernance au sens où ils sont présents dans chacune de ces organisations à travers le comité consultatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais surtout, ils ont développé leur propre, surtout les Chinois, les Russes essayent de le faire de leur côté, mais ils ont développé leur propre outil. C'est-à-dire que tout en restant connectés à l'ensemble, ils ont mis en place un système Internet, ils ont appelé ça le Great File, le Grand Mur de Chine. Ils ont mis en place un dispositif dans lequel on peut accéder à Internet que via les dispositifs techniques qu'ils ont eux-mêmes mis en place quand on est en Chine. Donc ils ont su créer en plus les équivalents en Chine sur un marché considérable des grandes entreprises américaines. Il y a l'équivalent évidemment d'Amazon avec Alibaba, il y a l'équivalent des systèmes de messagerie, il y a l'équivalent de Google, etc. Donc les Chinois ont su créer leur propre... On les caricature souvent en disant qu'ils ne se sont préoccupés que d'un contrôle policier. Le contrôle policier, c'est évidemment la partie peut-être la plus visible et la plus spectaculaire et la plus choquante pour nous, mais la réalité, c'est une culture numérique qui s'est beaucoup développée, c'est un usage du numérique qui s'est extraordinairement développé, et c'est des grandes entreprises qui sont capables de tailler des croupières aux grandes entreprises américaines et qui, bien sur le marché chinois, sont très largement dominantes, puisqu'elles sont pratiquement
seules
à pouvoir y accéder.
Mais va-t-on dire qu'on va avoir, parallèlement à une sorte de guerre commerciale entre États-Unis et Chine, est-ce qu'il y aura une guerre d'Internet entre les États-Unis et la Chine? Est-ce que ces géants vont s'affronter ou chacun va rester dans son domaine?
Alors, elles s'affrontent déjà à travers tous les enjeux que j'évoquais, cybercriminalité, cyberespionnage, cyberguerre, tous ces éléments sont évidemment chacun de ces États, mais pas seulement eux. La France se dote elle-même de ses propres outils, chacun de ses États est particulièrement agressif à l'égard de son voisin dans ce type d'opération. Donc ça, c'est une réalité qui existe, comme elle a toujours existé dans les luttes en matière d'espionnage, mais cette réalité-là est une réalité qui prend de l'importance, parce que, compte tenu de la place que tient Internet et le numérique dans l'économie des sociétés, c'est évidemment les effets destructeurs peuvent être considérables, aussi bien pour paralyser des systèmes que pour s'introduire dans ces systèmes ou pour exploiter les innovations qu'ils représentent. Il y a là des enjeux évidemment énormes, mais qui correspondent à la rivalité entre les puissances qui a toujours existé. Je ne crois pas qu'en revanche qu'on aboutisse à un conflit au sens des systèmes qui se tournent le dos les uns aux autres, puisque c'est le contraire même d'Internet. Les Chinois ont toujours montré énormément de réticence et de résistance à la façon dont fonctionne l'ICANN, par exemple, sur l'attribution du nom de domaine. Mais dès que l'ICANN lance des appels d'offres, la Chine revient au galop participer à ces appels d'offres pour pouvoir y exercer son influence. Donc ils ont une approche là-dessus très pragmatique, essayer de combattre l'influence américaine chaque fois que c'est possible, mettre en place leur propre système sans le refermer complètement pour garder le lien avec le réseau Internet mondial, et lorsqu'il y a des enjeux de pouvoir, participer à la compétition, ne pas jouer la chaise vide pour pouvoir continuer à exercer une influence correspondant à ce qu'il représente. En tout cas, la Chine aujourd'hui, même si elle représente beaucoup moins les GAFA, il faut avoir en tête par exemple que les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, auquel on peut rajouter Microsoft, représente aujourd'hui dans la gestion des données 80%, gère 80% des données mondiales. Donc le reste se partage entre quelques États dans lesquels la Chine joue un rôle important. Mais dans le reste, 80% est contrôlé par la Chine. C'est dire que la Chine a su, même si elle est très loin de l'influence exercée par les GAFA aux États-Unis, elle a su se placer dans une position aujourd'hui très forte et de manière technologiquement très avancée, très accomplie.
Mais donc, si la Chine a 80% des 20% restants, ça veut dire que l'Europe n'a pas grand-chose.
Ah, l'Europe n'a quasiment rien. L'Europe est la grande... On a parlé de colonie numérique, c'est un mot qui revient. Dans un des rapports du Sénat, on avait évoqué cette formulation qui est due à Catherine Morin-Desailly. C'est malheureusement la vérité. L'Europe, aujourd'hui, n'a comme principal outil que son souci d'assurer la protection des données sur lequel elle a une capacité d'expertise importante et un moyen d'influence, puisque le marché européen reste un marché essentiel pour les GAFA, dans la mesure où les Européens sont des gens qui ont une grande quantité de données, comme ils sont éduqués, avec un certain niveau de pouvoir d'achat, ils représentent des marchés considérables toujours pour les GAFA. Donc les GAFA sont obligés, entre guillemets, s'interroger, de s'intéresser à ce que fait l'Europe dans ces domaines. Et donc nous avons là une longueur d'avance par rapport aux États-Unis. Les objets connectés peuvent nous offrir une deuxième opportunité, puisque là encore nous avons des compétences que nous pourrions exploiter, puisque c'est un nouvel âge de l'Internet qui se met en place, c'est-à-dire les objets qui transmettent de l'information, qui échangent de l'information entre eux et sur lesquels nous avons un certain nombre de compétences. Les cartes se redistribuent, mais je pense que les premières tentatives que nous avons faites en la matière ne sont pas les plus courageuses, parce que chacun malheureusement mène sa démarche en Europe de son côté, malgré les annonces faites il y a quelques années d'un Internet européen.
Bah en 2002, au sommet de Lisbonne, on avait parlé des autoroutes de l'information avec 3% du PIB consacré à la recherche. Tout ceci n'a pas eu lieu.
Non, les effets d'annonce ont été là, mais ils n'ont pas été suivis des faits, ni en termes de moyens, ni en termes de
mais
coopération.
Est-ce que ce n'est pas un péril, même si nous sommes des bons consommateurs, est-ce que ce n'est pas un péril à terme pour notre rayonnement ?
Ça l'est déjà. Oui. Et notre sécurité, ça l'est déjà, puisqu'on a bien vu avec l'affaire Snowden combien nos systèmes économiques, commerciaux, militaires, politiques étaient pénétrés par
les services de renseignement. Et suite à votre rapport, y a-t-il une prise de conscience ? Avance-t-on ? Êtes-vous confiant ? Ou doit-on assister impavide et impuissant à une dépossession de nos moyens ?
Je pense que les rapports ont toujours leur utilité de pointer un certain nombre de sujets et de favoriser des prises de conscience. Je pense que la prise de conscience existe. Elle était peut-être moins forte il y a quelques années parce que la vitesse avec laquelle le numérique s'est emparé de nos vies n'était peut-être pas perçue de manière suffisamment pointue. Et la prise d'avantage des Américains, des États-Unis non plus. Néanmoins, ça avance au rythme où avance l'Europe. C'est-à-dire que tout cela ne peut avancer qu'en termes de coopération. Et cette coopération reste aujourd'hui beaucoup trop limitée. Il faut évidemment le regretter, mais au-delà de ça...
La France a une capacité d'impulsion ou non ?
Elle essaie, mais elle est aussi très partagée, parce que la France avait, avec la CNIL, la loi informatique et liberté, était la première à mettre en place, en matière de protection des données, des outils. Là encore, les affaires de terrorisme sont passées là-dessus, et les enjeux d'enseignement et de sécurité ont pris le dessus. Nous ne sommes plus aujourd'hui capables de faire la leçon, et en tout cas de nous poser en donneur d'exemple aux autres, comme nous pouvions le faire il y a quelques années.
Merci Gaëtan Gorce sur ce constat un petit peu, une conclusion un petit peu amère et lucide en tous les cas. Et merci pour toutes ces explications.
Merci beaucoup.